Nous allons continuer à lire l'Apocalypse. Merveilleux. C'est l'année Apocalypse. L'année de la révélation. On avait lu tout de suite au départ chapitre 1, 2, 3 et 4. Et on va arriver au chapitre 5 de l'Apocalypse. L'Apocalypse, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est croyant, qui a la foi. C'est un enfant de Marie qui vit des sacrements le jour du Seigneur. Il célèbre le jour du Seigneur et puis il fait oraison après et tombe en extase. Allez, c'est chapitre 1. Et du coup, Jésus lui apparaît. Il manifeste la gloire de son Verbe sous la plénitude de la résurrection, la plénitude de la résurrection qui ne pouvait se manifester donc qu'après, que seulement que Marie était assumée, parce que donc il fallait vraiment que ce soit l'humanité intégrale, homme, femme, et dans le dépassement des deux. La lumière, voilà pour l'homme, la splendeur, voilà pour la femme, la manifestation, c'est la splendeur. Donc quand le Verbe se manifeste dans la résurrection, il faut qu'il y ait Marie dans la résurrection. Ça, c'est ce qu'on avait vu, et donc on avait bien vu que toutes les visibilités de Jésus ressuscité dans la splendeur sont mariales. C'est donc ce qu'on avait bien essayé de voir. Et puis, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a compris qu'il y avait une sainte famille, qu'il y avait une menorah, qu'il y avait les sept menorahs d'or tout autour, qu'il y avait celui qui devait recevoir l'Immaculée Conception de l'intérieur, qu'il y avait une trinité dans cette manifestation, une trinité glorieuse, humaine et glorieuse. Alors à ce moment-là, on pouvait comprendre, ouvrir le mystère de l'Église. Et là, du dedans de la Sainte Famille glorieuse, il y a le mystère de l'Église. L'Église vient d'en haut. Et l'Église, elle s'origine dans l'immaculation de la gloire, laquelle s'enracine dans la rédemption de Jésus, dans la croix de Jésus, dans les plaies glorieuses de Jésus. Et puis elle pousse comme ça, elle pousse comme un arbre de vie. Et donc Jésus est inséparable d'une part de sa personne divine, mais aussi d'autre part, il est inséparable de son corps mystique entier, vivant et total, plénier. Alors, il va y avoir l'Église dans sa plénitude. C'est l'Église dans sa plénitude. Les sept Églises, sept, c'est la plénitude. Donc on avait bien vu ce grand chanson sur la manière dont on se réalise à l'intérieur du Christ. C'est lutte victorieuse d'ailleurs, hein. C'est lutte victorieuse contre le mal, parce que toute lutte, comme celle de la croix d'ailleurs, aboutit à la résurrection. L'Église s'enracine dans l'Église est une manifestation de la résurrection, mais elle s'enracine dans la lutte du Christ sur la croix. Et donc dans sa plénitude, ce sont des luttes. L'Église dans sa plénitude, c'est un mystère de lutte parce que c'est son enracinement. Mais sa manifestation profonde, elle est glorieuse. Et son cœur profond est dans les récompenses. À celui qui entend ce que l'Esprit dit aux Églises, je donnerai un nom nouveau. Il sera une colonne dans le temple de mon Dieu. Je mettrai sur lui le nom de mon Dieu, le nom d'Élohim, le nom de la cité de mon Dieu et le nom nouveau. Enfin, pour les sept églises, il y a à chaque fois les sept récompenses, les sept fruits. L'Église, c'est ça, c'est le fruit de Dieu, le fruit que Dieu va cueillir. Alors, nous sommes, au fond, le réceptacle, le tabernacle des sept églises de l'Apocalypse. Chacun d'entre nous, nous sommes le tabernacle de l'Église dans sa plénitude. C'est beau ça de voir ça, hein, dans l'Apocalypse. C'est comme ça que c'est écrit dans l'Apocalypse. Alors, une fois qu'on rentre dedans par la réalité, hein, pas par l'imagination, hein. Pas par l'imagination, je m'imagine que... Non, par la réalité, dès que cette réalité s'engouffre en moi, est aspirée à l'intérieur de moi, je suis aspiré dans cette réalité, qu'elle fusionne en moi, qu'elle rayonne, qu'elle surabonde, qu'elle illumine, qu'elle purifie la création, et aussi les espaces intérieurs du ciel et de Dieu, et également les espaces sans limite de la contemplation angélique, qu'il ne faut jamais oublier. Donc les cinq à la fois, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et on rentre dans le... On en est arrivé là. Hein. À ce moment-là, quelque chose qui s'ouvre. Alors voici. Si tu arrives jusque-là, il y a un dépassement qui va s'ouvrir, une porte va s'ouvrir. Voici. Va. À ce moment-là, ici, regarde. Je vis, alors, Saint-Jean dit. Alors, il est déjà en extase. Hein. Et de l'extase, on peut dire qu'une porte s'ouvre. Il va voir une vision. Donc il y a un ravissement à l'intérieur, spirituel à l'intérieur de l'extase. Et on va voir ça souvent dans l'Apocalypse. Bon, il passe d'un ravissement à l'extase. Et de cette nouvelle extase à un nouveau ravissement. Alors évidemment, quelquefois on voit des... On peut dire que, bon, oui, bien sûr, on peut lire tout ce qui est de la révélation, peut se lire sous des angles très très variés, hein, on est d'accord, ça c'est vrai. Nous, ce qu'on essaye de voir, c'est comment ça... autant qu'on peut... Si le Seigneur nous en donne la grâce, c'est comment Saint Jean avait reçu cela lorsqu'il l'a reçu. Vous comprenez? Après, comment c'est interprété par les successeurs, vous savez, un peu moins bien. Pour mon arrière-grand-père, l'enseignement d'arrière-grand-père retenu par l'arrière-petit-fils, ça. C'est autre chose, hein, c'est vrai. Non, c'est vrai, il y a des trucs intéressants d'ailleurs, c'est vrai. On dit, ben après tout, c'est vrai, l'Église, voilà, d'abord, elle a connu les mêmes étapes que Jésus. Elle a commencé avec Marie, elle a commencé avec Marie, voilà, l'Église d'Éphèse, elle a commencé avec Marie, quoi. L'Église d'Éphèse, elle a commencé dans la sagesse, dans la paix. Et puis tout de suite après, eh ben, il y a eu... Et Jésus d'ailleurs a suivi les mêmes étapes dans sa vie. Hein. Tout de suite après Nazareth, il y a tout de suite la persécution d'Hérode. Les saints innocents, la fuite en Égypte, etc. Donc c'est Smyrne. Pareil pour l'Église, tout de suite après les débuts, la résurrection, la Pentecôte, etc. Tout de suite il y a eu la persécution. Smyrne, vous voyez. Et puis après Pergame, donc il y a eu la période ensuite, après la persécution, des pères de l'Église. Il a bien fallu, une fois la persécution terminée, qu'arrive Saint Jérôme, n'est-ce pas, qu'arrive... Saint Jérôme, c'est un des premiers, vous voyez. Puis après, il y a eu quand même Saint Augustin, Saint Jérôme, tous les grands, tous les pères de l'Église, à commencer bien sûr par les pères du désert. Et c'est un petit peu ça. Et c'est sûr que dans la vie de Jésus, il y a eu ça. T'es aussitôt revenu à Nazareth, il y a eu une très grande... moment où c'est la Torah, la révélation, l'évangile était communiqué, vous voyez, à l'intérieur de la Sainte Famille. Voilà, c'est une période de travail aussi, on peut dire. Et ça, ça fait Smyrne, et du coup ça débouche à un moment dans l'histoire de l'Église, on voit que les pères de l'Église, au bout d'un certain temps, la période, vous voyez, ces trois premières périodes dans l'Église se sont succédées. Ça fait pas l'ombre d'un doute, vous voyez, jusqu'à les grands théologiens, vous voyez, de Saint Jérôme jusqu'à Albert le Grand, ça fait quand même pas mal. Et puis alors après il y a eu ces grandes périodes de travail et de service. Cette yatire, vous voyez, une ferveur, la période du Moyen Âge, une période de ferveur, de service, de solidarité. Une période très mariale, toutes les... On sait bien, Domanova, par exemple, c'est il y a 1000 ans, n'est-ce pas? Et tous les sanctuaires, tous, c'est ici, il y a 1000 ans. C'est une période très mariale, une période très, très simple, très populaire, très, très solidaire. Très, très solidaire. C'est l'époque des corporations, si vous voulez. Donc, ça veut dire une solidarité totale, sur tous les plans, dans toutes les couches de la société. Et ce qui servait de modèle à la communauté chrétienne, c'était les moines. Et la ville, la cité, le village, enfin, les métiers, tout ça, étaient calqués dans leur manière de vivre entre eux sur la société monastique. C'était vraiment quelque chose, aujourd'hui très caricaturé, hein, dans les films comme Au nom de la rose, ou je sais pas quoi. C'est présenté de manière complètement incroyable, enfin diabolique, on peut dire. Hein. C'est une espèce d'inversion complète. Mais il y a une période vraiment de ferveur. Et c'est vrai, c'est y attire, ça. Puis après, il y a la période missionnaire, la période de Sartre, la période de l'Église triomphante. Vous voyez, l'Église triomphante, sécurise, pitouze. C'est vrai, c'est une période comme ça, l'Église triomphante, l'Église... Et puis après l'Église triomphante, bon, et c'est fini, on sait bien. Aujourd'hui, l'Église triomphante, il y a un dernier truc, c'est Jean-Paul II, l'Église triomphante. C'est sûr, après c'est Philadelphie, l'Église. De l'esprit d'intelligence, c'est l'Église de Philadelphie, c'est l'Église de Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, l'Église des embryons, l'Église de la mystique embryonnaire, de la solidarité fraternelle dans sa racine originelle. C'est l'Église de Philadelphie, l'esprit d'intelligence, ça y est, ça, c'est beau ça, le cœur pur. Et à la fin, l'Église de l'Odyssée. C'est vrai, il y a un jugement qui se fait. Tout est mis à nu. Et c'est vrai, on peut dire, voyez, on peut lire l'Apocalypse, voyez, comme ça, pratiquement tous les septénaires qu'il y a dans l'Apocalypse, on pourrait les lire comme ça, dans une lecture un petit peu génétique. Mais c'est pas ça. Ce serait peut-être pas faux, ce serait pas complètement faux. Mais on sent que c'est pas ça que l'Apocalypse donne. L'Apocalypse, c'est... L'Apocalypse n'est pas là pour qu'on trouve ce genre de lecture. L'Apocalypse est une révélation sur ce que Dieu vit en Marie lorsqu'elle est ressuscitée et qu'elle manifeste la gloire humaine et glorieuse du Verbe de Dieu. Ce que Jésus ne peut pas faire. Jésus ressuscité ne peut pas manifester la gloire glorieuse humaine du Verbe, parce que le Verbe est féminin. Le Verbe, c'est l'épouse du Père. Il n'y a que l'épouse glorifiée dans la chair humaine, Marie, qui peut être cette manifestation. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Marie comme gloire du Verbe de Dieu dans son germe, oui, à la dormition, bon, dans son déploiement à l'Assomption, dans son fruit à la Jérusalem céleste. Et tout Apocalypse, c'est fait pour ça. Pour Marie qui... Marie, elle ne faut pas oublier que Marie, elle a été donnée par Jésus crucifié à Saint Jean et donc à lui, prêtre éternel, Jésus, à travers le cœur du sacrement qu'il a donné à Saint Jean. Et donc Marie est livrée, était déposée dans tous ses secrets intérieurs à ce prêtre-là, vous comprenez ? C'est ça. Donc arrivée au ciel, c'est normal, l'Apocalypse, qu'elle continue à livrer ses secrets. Et c'est ça l'Apocalypse, ses secrets intérieurs, une révélation. C'est évidemment l'interprétation principale de l'Apocalypse. Après, on peut faire des interprétations, vous voyez, des électrons libres, vous voyez. Oui, c'est vrai, l'Église au début, c'était ça, puis après ça a été persécution, puis après ça a été truc. Donc vous voyez, là, on devrait être à peu près là. Oui, d'accord. Enfin bon, hein, le bienheureux Holzhauser, n'est-ce pas, quand il interprète l'Apocalypse, il va dans cette direction. Hein, c'est un petit peu l'électron libre, vous voyez. Très lointain. C'est normal, il ne savait pas ce que c'était la responsabilité, il ne savait pas ce que l'Église n'avait pas encore défini l'Immaculée Conception, ni l'Assomption, ni rien du tout. Alors donc, évidemment, ce n'était pas donné, c'est vrai. Voilà. Bon, Donc, une fois qu'on est dans cette manière dont Marie glorifiée fait grandir l'Église dans la lutte avec sa grâce de plénitude qui lui appartient dès le départ, alors, à partir de ce moment-là où on vide ça, voilà, on va pouvoir entrer dans la suite. Alors, ça, je m'excuse, je n'ai pas la bonne page. Découvrement de Yohanan. La Odyssée. Oui, la Odyssée, c'est vraiment l'Église mise à nu. Hein. C'est l'esprit de crainte. C'est la ferveur. Ça exprime l'Église. Elle doit être dans une plénitude de ferveur parce qu'elle ne dépend plus que de Dieu. Alors elle est mise à nu. À la Odyssée, c'est marrant d'ailleurs que Dieu ait choisi chacune de ces villes parce que chacune de ces villes avait une spécialité en Asie. À la Odyssée, il faisait des tissages. Des tissages très fins de soie. Alors les femmes étaient revêtues comme ça, de vêtements qui étaient collants, qui collaient, toutes les formes se voyaient. Alors, c'était un noir, c'était des tissus noirs très très fins qui collaient. Alors c'est pour ça qu'il y a un tissu. Tu vois pas, tu crois que tu es habillé, que tu es riche, mais tu vois pas que tu es nu. Tu ne vois pas que tu es nu. Ça, ouais. Parce que, dans la Odyssée, c'est ça. Hein. Tu es pauvre, pitoyable, aveugle et nu. Et puis il y a un reproche aussi sur le côté un peu sensuel à la fin. Ouais. Et la tiédeur, parce que si tu deviens tête, tu deviens sensuel. Il faut être fervent. Et ceux qui sont fidèles, ceux qui ne tombent pas dans le sensible, c'est en même temps quand la religion devient trop. Quand vous vivez spirituellement du religieux de manière trop sensible, et ben vous devenez. Ça veut dire que vous êtes dans une société qui est, elle, sensuelle. C'est la réponse religieuse à une société sensuelle, c'est une religion du sensible. C'est le problème d'aujourd'hui, c'est évident. C'est un des problèmes d'aujourd'hui. Tous les problèmes d'aujourd'hui, il y en a sept problèmes d'aujourd'hui. Mais c'est les sept églises, parce que les sept églises, c'est à chaque moment. Voilà. Mais vous voyez, là, c'est quand même la ferveur. La ferveur, ça implique attends. Maintenant, il faudrait peut-être que tu y vois clair, que tu te guérisses la vision, parce que tu te prépares à la vision béatifique. Toutes les richesses de grâce que tu as, c'est pas des richesses de grâce, c'est une pauvreté. La seule richesse de grâce, c'est la pauvreté. C'est la nuit obscure de l'âme. La nuit aquasée de l'âme. Et il faut rentrer. C'est l'Église de la ferveur et de l'esprit de crainte de Dieu. Dieu vient dire, il n'y a plus que Dieu qui fait tout. Et nous, on fait rien. C'est l'Église instrumentale. Elle n'a pas à s'estimer riche de quoi que ce soit. C'est l'Église du jugement. Tout va être mis à nu. Il ne faut dépendre plus que de Dieu, c'est tout. C'est beau ça. Alors chacune des églises, alors d'autres interprétations, voilà, quand vous faites oraison, vous pouvez faire oraison en disant, voilà, vous pouvez, un autre électron libre. Je vais prendre les sept églises à la suite, vous voyez. Voilà, ben, je vais prendre, j'ai 70 minutes d'oraison, ou allez, une heure d'oraison, donc je vais prendre cette fois de garde, 5056, je vais prendre 8 minutes sur chaque église, n'est-ce pas? Voilà, c'est beau ça de faire ça. Je vais prendre l'Apocalypse, je vais lire tranquillement. Je vais prendre et je vais vivre d'abord de l'esprit de sagesse avec Éphèse, l'esprit de force de Marie. Ce que Marie nous donne dans la manifestation du Verbe, quand ça se manifeste en plénitude dans nous. Puis après, je vais prendre les 5 minutes suivantes avec Pergame, avec la science de Dieu. Puis après, avec la ferveur. Avec la plénitude, je suis dans les bras de la maman. Quoi. Je laisse Zézabel dehors. Plus de Zézabel, hein, plus que la maman, c'est tout. Etc. Vous voyez, puis je vais faire 5 minutes. Voyez, c'est ça qui est beau, ça. C'est beau de faire ça. À ce moment-là, vous avez l'esprit de sagesse, d'abord l'esprit de force. Vous voyez, c'est les 7 dons du Saint-Esprit qui sont manifestés un petit peu ici, sous ce mode de. Voilà ce que j'attends de toi. Voilà pourquoi je suis content. Voilà la tentation dans laquelle tu es par rapport à ce don du Saint-Esprit. Et voilà le fruit que tu vas récolter si tu laisses libre l'esprit de conseil de se répandre en toi avec la plénitude mariale et la plénitude de l'Église finale. C'est comme ça qu'on peut lire aussi les sept Églises. Vous voyez, on peut avoir pas mal de lectures de cette Église, mais de tous les septenaires. Parce que l'Apocalypse, c'est une multitude de septenaires. Je ne sais plus combien il y en a. Je crois une quarantaine de septenaires. Donc, on a vu, quand le Christ apparaît, il y a sept manifestations splendides et glorieuses de l'épouse. Dans l'humanité glorifiée, du Christ qui apparaît. C'est beau ça. Il y a sept choses. C'est que des septenaires, c'est que de la plénitude qui est donnée. Alors on peut prendre, pareil, chacun de ces septenaires, puis prendre. C'est beau de faire oraison comme ça, quand on dit moi je suis sec pour la raison. Je suis là et puis. Ah, je vois rien. Tu prends l'Apocalypse et on n'en parle plus. Vous comprenez? Parce que la parole est un. Réalise ce qu'elle signifie. Tu le dis à haute voix pour que heureux celui qui lit, et tu le dis à tous les enfants et ceux qui entendent, n'est-ce pas? Et alors du coup, hein, tu le dis à haute voix. Heureux celui qui lit et heureux, c'est-à-dire ceux qui entendent. Tu ne peux pas le lire. Tu vas le lire au monde angélique. On va voir ça dans l'Apocalypse. On va. Il y a des choses qui sont clairement exprimées que quelque part, l'Église glorieuse va plus loin que la vision béatifique des anges. Et donc les anges sont attirés dans leur raison chrétienne pour rentrer dans la gloire de l'épouse. Parce qu'ils connaissent dans l'épouse la lumière de la vision béatifique dans la face du Père, mais ils ne connaissent pas la gloire de l'épouse. Alors les anges sont attirés dans notre raison. Il faut comprendre qu'on a un rôle d'unification avec Marie. C'est notre rôle à nous. De toute la création, monde angélique, le monde spirituel, et le monde de la matière, pour faire entrer, à partir de la Jérusalem spirituelle que nous sommes, dans la Jérusalem glorieuse en plénitude, ce que la Jérusalem glorieuse est dans la Sainte Famille glorieuse. Vous savez là, un résumé de l'Apocalypse. Hein. C'est beau ça. Alors évidemment, on peut faire oraison, je vous dis, en disant, à mi-voix, comme ça, sachant qu'on le dit à un ange. Quand vous parlez à un ange, il faudrait que je vous apprenne à parler à un ange, puisque vous êtes des néophytes. Vous savez ce que c'est que des néophytes? Vous savez, il y a des catéchumènes. Les catéchumènes, c'est ceux qui ne sont pas encore baptisés et qui ne savent rien. Alors, ils n'ont rien et ils ne savent rien. Alors c'est des catéchumènes. Ils n'ont rien puisqu'ils ne sont pas baptisés. Et ils ne savent rien parce que, par définition. Voilà. Mais une fois qu'ils sont baptisés, ils ont quelque chose. Mais ils ne savent toujours rien. Alors on dit, ou du moins ils ne savent pas grand chose. Ils savent. Mais ceux, ils ne connaissent pas. Bon, donc deux non plus. Alors, feu, ils ne connaissent pas non plus. Alors bon, alors, regarde, mais ils ne savent pas grand chose. Bon, alors on appelle ça des néophytes, n'est-ce pas, des néophytes. Vous êtes des néophytes, n'est-ce pas? Bon. Bon, on est tous des néophytes à côté de Saint-Jean, c'est évident. À côté de Saint-Jean, après l'Assomption, on est des néophytes, je veux dire. Bon, sauf des exceptions, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on fait pour parler à un ange? Vous voyez? Et nous, moi je suis là. Je suis là, je vais parler à un ange. Un ange, c'est une contemplation. Difficile, hein, de parler à un ange. Un ange, c'est une contemplation. Oui, il est où, l'ange? Il n'y a pas de lieu pour un ange. La contemplation n'a pas de lieu. Moi, je suis dans un lieu, je suis dans un corps. Je suis sur la terre. Même au ciel, je serai encore dans mon corps. Et mon corps, c'est mon lieu. Et comme je fais partie de tout un ensemble, même au ciel, je serai dans un lieu. Parce qu'un ange n'a pas de corps, donc il n'a pas de lieu, c'est une contemplation. Alors, où est-ce qu'il est l'ange? Ne cherche pas où est-ce qu'il est, il n'a pas de lieu. C'est une contemplation. C'est une contemplation personnelle, c'est quelqu'un qui est une personne, c'est une personne vivante, mais qui n'a pas de lieu. C'est extraordinaire. C'est pas inouï ça. Hein? Rencontrer son ange, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Parce que il est dans sa contemplation ce que ma sainteté est dans l'incarnation. Ton ange gardien, je parle. Parce que ton ange gardien n'est pas en contemplation ce que je suis de mon incarnation, puisque justement c'est ton ange gardien à toi. C'est ta sainteté à toi, mais du point de vue de la contemplation, sans lieu. C'est-à-dire vaste, une vastitude, sans limite. C'est ce que tu es dans ta sainteté, mais dans une vastitude sans limite, purement contemplative. C'est ça ton ange. Mais les autres anges aussi sont dans une vastitude sans limite, puisqu'ils n'ont pas de lieu, vous voyez. Ah ! Alors quand tu vis quelque chose de très fort, c'est tout petit. C'est très fort, mais c'est tout petit. Tu conjoins ça à ton ange, et ce truc est tout petit, parce que c'est toi. Ce que tu vis, c'est tout petit. C'est microscopique ce que tu vis quand tu fais un acte de foi, de pauvreté. Tu dis, je vous salue Marie. Tu mets ça dans ton. C'est un tout petit point. C'est un tout petit point. C'est un point. Quoi. C'est, même au microscope, tu verrais que c'est encore plus petit que tu ne le penses. Eh bien, c'est tout petit. Tu le conjoins à ton ange gardien et lui, il donne une vastitude sans limite. C'est étonnant ça. C'est étonnant ça. Hein? Et pourtant l'ange, il a besoin de nous pour rentrer dans cette petitesse, pour pouvoir rentrer justement dans la gloire de l'épouse. La gloire du Verbe. Parce que le Verbe s'est incarné. Cette espèce d'aspiration du monde angélique dans la petitesse de notre prière, de notre cœur, ce qu'on comprend de Jésus, on y invite l'ange et ça prend une vastitude sans limite. Et le mélange, voyez, de l'homme par la prière et de l'ange aboutit à Dieu. Et en Dieu, ça prend du coup une... Ça prend du coup une intensité d'éternité. Et comme le mélange de l'homme, de l'ange et de Dieu, ça s'appelle le miracle des trois éléments. Et c'est ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est le miracle des trois éléments. La matière, c'est l'homme. La forme, l'éternité, c'est Dieu. Miracle des trois éléments, c'est beau ça. Bon, eh ben, on peut parler avec les anges, voyez. Vous dites à mi-voix comme ça. L'ange, il peut pas parler, dire à mi-voix. Avec, vous parlez à tous les anges. C'est génial. Relisez l'évangile de Noël, par exemple. Vous verrez que les anges sont là et ils veulent voir les petits bergers, quoi. Qui garde les cochons. Jésus est né, c'était tout petit, quoi. Tout petit dans la lumière. On peut dire qu'il se détourne de la vision béatifique, sans la quitter d'ailleurs, laisser Jésus les inviter à amplifier dans leur vastitude sa nativité à Noël dans la crèche. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, ils sont obligés de passer par les bergers. Par les pauvres. Par nous, quoi. Mais les anges ont besoin de nous, vous comprenez ? Alors c'est pareil pour les enfants. Les enfants, je peux parler aux enfants. Là, comme ça, ils donnent une plénitude de transparence, une plénitude d'innocence à ma foi. Je reçois l'Eucharistie, je le reçois de mon mieux, bien sûr, bon, même quelquefois avec un peu de tiédeur. Mais au moins je leur donne, eux, ils le reçoivent avec une transparence et une innocence qui lui donne tout son... Et donc, une plénitude d'innocence. Plénitude d'innocence triomphante. On pourrait lire l'Apocalypse comme ça, pour chaque septénaire, voyez. Pour chaque septénaire. Voilà. Plénitude d'innocence. Plénitude de vastitude. Pour Marie, plénitude d'immaculation, plénitude pour Jésus, etc. Et on verrait les sept. Si le petit chose que j'apporte, la petite pierre blanche que j'ai dans ma, comme David dans sa fronde, la toute petite pierre, hop, je la mets sur le, dans le cœur de Jésus, je la mets dans le cœur des enfants, je la mets dans le cœur des anges, je la mets dans le cœur du Créateur, je la mets dans le cœur de la matière, de l'univers. Et les sept toujours. Hein. Alors on pourrait lire comme ça l'Apocalypse, en prenant les sept. Hein? Encore un électron libre. Remarquez bien que si on prend l'interprétation joannique, c'est-à-dire c'est Marie qui dévoile à Saint Jean, c'est Dieu, l'Esprit Saint qui dévoile à Saint Jean ce qu'il vit à travers la gloire en plénitude de l'épouse ressuscitée et assumée, on va retrouver forcément toutes ces interprétations dont je suis en train de vous parler, forcément. Mais on ne peut pas prendre une séparément en disant c'est ça. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. De toute façon, l'Apocalypse, c'est de toute façon génial. Bon, alors. C'est trop bien l'Apocalypse. Alors. Nous en étions là, donc. Hein. Après cela, je vois. Vision. Et voilà ici une porte ouverte dans le ciel. Une fois que je vis ça, la plénitude de l'Église, je peux être emporté dans un ravissement. C'est l'esprit cette fois-ci. Hein. Parce que quand vous êtes en extase et qu'il y a un ravissement, c'est votre esprit qui est emporté. C'est pas pareil, vous voyez la différence entre un ravissement et une extase. Hein. Non, et le vol de l'esprit, vous voyez les trois. Vous connaissez tous Saint-Thérèse d'Avila, la différence, n'est-ce pas? Vous avez l'habitude, donc il n'y a pas de problème. Alors donc, la voix, la première que j'entends me parler, la voix, la première que j'entends me parler comme un chauffard, comme une trompette, dit « Monte, ici, je te montrerai ce qui va advenir. » Après cela. C'est un vol de l'esprit, vous comprenez, puisque on est dans la plénitude du corps mystique entier vivant de Jésus. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de la plénitude du corps mystique de Jésus entier. Quelque chose qui est au-delà. C'est forcément un ravissement, un vol de l'esprit. C'est en même temps un ravissement et un vol de l'esprit. C'est sûr ça. Après cela, c'est pas après 5 minutes après, hein. C'est après, au-delà de cela. Vite, j'y suis. Vite et immédiatement. Alors, il y a une aspiration, hein. Il y a une porte qui s'ouvre. Viens ici. Oh, et vite, long. J'y suis. Et vite, j'y suis en esprit. J'y fus en esprit. Immédiatement, j'y fus en esprit. Et hop, il est arraché. On sent bien. Il voit. Alors, lui, quand il voit, c'est en même temps Marie qui l'emporte à l'intérieur d'elle, qui l'emporte dans son monde spirituel et qui lui dit de voir ce qu'elle voit. Mais en même temps, Saint Jean, il nous le dit à nous. Donc, il dit, je suis emporté spirituellement avec lui dans le vol de l'esprit. Et ce qu'il voit, c'est-à-dire ce que Marie voit, il me le fait voir. Il me dit, regarde, vois. Vois ici. Un trône se trouve là, au ciel. Un trône. Et sur le trône, quelqu'un, assis. Celui qui est assis, a comme l'apparence d'une pierre de jaspe, de sardoine, et un arc-en-ciel autour du trône, semblable en apparence à de l'émeraude. Et autour du trône, des trônes, 24 trônes. Et sur les trônes, 24 vieillards, 24 anciens, assis, habillés de vêtements blancs. Et sur la tête, des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Et cette lampe de feu brûle en face du trône. Ce sont les sept esprits d'Élohim. Et face au trône, il y a comme une mer miroitante, semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et autour du trône, au milieu et autour du trône, au milieu et autour du trône, quatre vivants, remplis de Dieu par devant et par derrière. Le vivant, le premier, est semblable à un lion. Le second vivant est semblable à un taureau, un petit taureau. Le troisième vivant a face d'homme. Le quatrième vivant, semblable à un aigle en plein vol. Les quatre vivants, un à un, ont chacun six ailes. Ah, pour la première fois, il n'y avait pas sept. Ça, pour une fois qu'il n'y a pas sept, ça. Il n'y a pas sept, c'est six. Ah, six ailes chacun. Six ailes autour et dedans, les ailes, des ailes sont remplies de Dieu. Les ailes sont fabriquées avec des yeux. C'est extraordinaire. Sans repos, nuit et jour, ils disent Saint, 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 Yahweh, Elohim, Sabaoth. Celui qui est, qui était, qui vient. Et quand les vivants donnent gloire, splendeur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, le vivant, pour les éternités des éternités, les 24 anciens tombent face devant celui qui est assis sur le trône, se prosternant en face du vivant pour les éternités des éternités, jetant leur couronne en face du trône et disant à toi, notre Seigneur et notre Dieu, la gloire, la splendeur, la puissance. Toi, le Créateur de tout, par ta volonté, ils étaient et ils ont été créés. Ça, c'est beau. Hein? Bon, vous avez tout compris. Qu'est-ce qu'elle vit, Marie, lorsque elle manifeste en plénitude toute la gloire du Verbe de Dieu dans la résurrection corporelle de la femme qu'elle est dans la résurrection, dans son unité sponsale. C'est beau parce que faut comprendre ce que c'est que la sponsalité de Marie dans la résurrection. C'est la nouvelle Ève et le nouvel Adam qui vivent une seule chair glorieuse. Et la gloire de la résurrection de Jésus, c'est Marie ressuscitée. Pourquoi ? Parce que la personne de Jésus, c'est l'épouse du Père. Le Fils de Dieu, c'est l'épouse du Père. C'est bien que quand Marie est introduite dans cette... Il y a une humanité intégrale. Tout ce que vit Jésus dans la personne du Verbe, elle le vit à la gloire de sa résurrection. Et c'est pour ça qu'elle est reine. C'est pour ça qu'elle est, quelque part, elle est au-dessus de Jésus ressuscité. Mais le Verbe de Dieu est au-dessus d'elle, puisqu'elle est avant lui, avant elle. C'est facile à comprendre, elle est la mère de Dieu. Et quand la mère de Dieu ressuscite, elle devient la reine de Jésus ressuscité. Jésus, c'est le serviteur. Dans l'Apocalypse, Jésus, c'est le serviteur, le témoin, le serviteur fidèle. Marie, c'est la reine. Mais comme c'est pour voir cette spontanéité, elle est magnifique. Hein. C'est de l'intérieur qu'il faut la regarder. Hein. C'est pas. Je sais pas essayer de comprendre les mots. Hein. C'est de l'intérieur. De l'intérieur. C'est de l'intérieur que Saint-Jean, spirituellement, découvre ça. Dans la vastitude du miracle des trois éléments. Oui. Mais puisque elle est la femme par excellence glorifiée, elle épouse forcément le Saint de Dieu le Père. Le Père, c'est l'époux. Mais comme elle est la gloire humaine de la résurrection, quand elle épouse avec toute son humanité glorifiée l'époux qui est Dieu le Père, elle trouve son époux qui est Joseph glorifié. Vous comprenez ? Il y a une double sponsorité. Il y a deux processions sponsales dans la gloire. Bon. Je vais reprendre, mais c'est important ça. Hein? Je vais reprendre parce que c'est important. Hein? Parce que si vous ne saisissez pas, ça veut dire qu'il y a plein d'autres qui ne vont rien comprendre non plus. Alors, donc. La sponsalité, c'est le fait de quand tu te maries, quand tu atteins le secret du mariage, quand le miracle du mariage se réalise, parce que c'est un miracle, les deux couleurs disparaissent et il arrive une troisième couleur dans laquelle les deux couleurs ne sont pas absentes, mais elles sont devenues, elles ont disparu, elles ont été aspirées. C'est le miracle du mariage. Dans le mariage, on n'est pas deux, on est trois. Il y a du jaune, du vert et du bleu. On est trois. Dans le mariage, c'est comme ça. C'est comme ça physiquement, c'est comme ça. C'est comme ça affectivement, c'est comme ça spirituellement, c'est comme ça aussi au niveau de la substance. Sur plan ontologique aussi, vous voyez ? C'est pour ça que le Saint-Père, quand il a expliqué la sponsalité, il a bien expliqué la signification sponsale de la solitude, la signification sponsale de la nudité, la signification sponsale de l'unité, la signification sponsale du don. C'est vrai sur le plan physique, la chair, du sang, physique, tout à fait différenciation sexuelle, tout ça. Bon. C'est vrai sur le plan donc de la lumière, sur le plan de la personne profonde, c'est vrai sur le plan spirituel. Et sur le plan ontologique. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort dans la sponsalité. Quand Jésus ressuscité et Marie ressuscité vivent cette communion dans une chair glorieuse, en une seule chair, ils disparaissent tous les deux dans la sponsalité glorieuse qui se manifeste dans l'apparition du chapitre 1 de l'Apocalypse. Ça, je crois que c'est clair pour tout le monde. Hein, hein. Ça se contemple, ça. Hein, je veux dire, ça s'expérimente. Si vous voulez le contempler, il faut d'abord l'expérimenter. Quelqu'un qui n'a pas aucune idée de ce que c'est que la signification sponsale du corps, il comprend rien à ce qu'on dit là, évidemment. Un homosexuel ne pourra jamais comprendre ça. Jamais. C'est impossible. Strictement impossible. Parce qu'il faut en faire l'expérience. Et le jour où, par une grâce de Dieu, vous faites l'expérience spirituelle de ça, vous êtes immédiatement guéri de votre homosexualité. Pas besoin de faire 20 ans de cure. Hein. En une heure, vous êtes guéri. C'est sûr. Moi, je l'ai vu. Sûr, tu découvres la signification, c'est pour ça que c'est terminé. Alors, bon, ça n'a strictement rien à voir avec le chapitre 4. Mais n'empêche que. Mais on est obligé de. On est obligé, quand même, Saint-Jean est un peu plus évolué que Sodome et Gomorre, hein. C'est-à-dire que nous. Bon, donc. Nous, c'est Sodome et Gomorre. C'est tout ce qui va être détruit par le feu. Alors. Donc. Quand la gloire de de la personne, de la seconde personne de la très sainte Trinité se réalise dans la résurrection physique de Jésus. Elle ne se déploie dans leur responsabilité, elle ne se déploie que à travers l'Assomption. Parce qu'il faut que ce soit la plénitude de l'humanité, de l'épouse qui soit manifestée. Donc ça c'est clair, hein, je crois qu'on avait déjà bien vu ça. Hein. Donc c'est une première responsabilité entre la nouvelle Ève et le nouvel Adam. Ils ont disparu tous les deux dans une seule résurrection. Et c'est la résurrection glorieuse du Verbe de Dieu. Mais le Verbe de Dieu, c'est l'épouse dans la très sainte Trinité. Et le Verbe de Dieu, lui, il vit dans l'unité de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire du Père et du Fils, une sponsalité éternelle avant la création du monde. Donc Marie, aussitôt, est aspirée dans le sein du Père à vivre, à être épouse de la première personne de la très sainte Trinité, qui est époux. Mais comme elle est corporellement glorifiée dans le Christ, elle est corporellement glorifiée dans le Christ, il faut bien qu'elle trouve cette sponsalité pour y joindre sa plénitude dans un époux qui trouve lui-même à l'intérieur de lui une gloire d'affinité avec sa gloire physique humaine, et c'est Saint Joseph glorifié. Vous pouvez tourner dans tous les sens, c'est impossible autrement. Donc quelque part, donc il y a deux processions sponsales dans la gloire de la résurrection. Et c'est pas du tout la même chose. Parce qu'à ce moment-là, elle est la reine de Jésus, mais Joseph glorifié, lui, c'est l'époux. Dans la Sainte Famille, oui. Il y a quelque chose de... Le Père passe à travers lui. Et donc la Sainte Famille glorieuse, c'est très étonnant, hein. C'est vrai, hein, parce que c'est très très étonnant. Ils sont cinq, vous voyez. Il y a cinq personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Marie et Joseph. Secret très simple pour comprendre pourquoi 5 est le chiffre de la vie divine. Tu mélanges ça et voilà, tu as la grâce. Quand tu te plonges là-dedans, tu es là-dedans, ça y est, tu fais comme Obélix, tu te plonges dans la potion magique. Quand tu es enfant, tu rentres là-dedans, ça y est, tu as la grâce. Moi, je suis tombé là-dedans quand j'étais petit, donc ça va tout seul. Et, pas plus besoin de me donner des énergies. Ça marche tout seul. Voilà. Vous donnez ça à vos enfants au biberon et c'est bon. Alors, donc, quand spirituellement, voilà ce que vit Marie. Vous comprenez ? Spirituellement, voilà ce que vit Marie. Donc, quand Saint-Jean est en porte, il y a une porte qui s'ouvre, après cela, au-delà de la plénitude du corps mystique de l'Église, mais il y a les processions trinitaires dans la gloire. Enfin. Alors, spirituellement étant, il y a un rapt spirituel intérieur, dans une vastitude sans limite, bien sûr. Voilà pour le miracle du côté angélique. C'est le ciel, hein. C'est le ciel, monde angélique, monde spirituel. Et c'est dit explicitement, vous voyez. Et voici, au ciel, l'attitude du monde angélique, le ciel c'est le monde angélique, hein, c'est le monde spirituel contemplatif. Un trône, hein, le Père. Le Père. Un trône. Mais quelque chose de visible donc. Ah, c'est beau, hein, de manifester Saint Joseph glorifié comme un trône. Hein. Et quelqu'un assis dessus. Et sur le trône, quelqu'un est assis. Joseph glorifié, c'est l'instrument du Père. C'est magnifique. Celui qui est assis a comme l'apparence d'une pierre de jaspe, de sardoine, c'est-à-dire un arc-en-ciel autour du trône, semblable en apparence à de l'émeraude. Ouais, ça c'est... Jaspe, ce sont des pierres précieuses, vous voyez, qui sont. Il y en a trois, vous voyez. C'est normal parce que dans le Père, il y a Joseph. Dans Joseph et dans le Père, il y a le Verbe et il y a Jésus. Dans le Père, il y a toutes ces sponsalités dans l'Esprit Saint. Donc il va y avoir ces trois émeraudes. Tout est fabriqué avec ces trois. Et en plus, c'est comme une espèce de. C'est au ciel, hein, c'est spirituel. Dans une vastitude incroyable. Et avec les sept couleurs de l'arc-en-ciel autour du trône. Toute l'alliance est dans les mains de Joseph glorifié. Toute l'alliance du site éternel. Semblable à l'apparence à de l'émeraude. Oui. Oh. Jaspe, je crois que le jaspe, c'est quelque chose. Ça dépend. Là, vous avez de la jaspe rose. Et la sardoine, c'est de quelle couleur? La sardoine, c'est de quelle couleur? C'est plutôt vert, hein? Ouais, c'est beau ça. Et l'émeraude, c'est plutôt. C'est vert. Il y en a des rouges aussi, des émeraudes.
Le rubis rouge.
Ouais. Mais moi, il me semble que c'est trois nuances de vert, les trois. Hein. Les trois sont des nuances de vert. Hein, parce que... Il me semble que c'est des nuances de vert. Ça, c'est des nuances de vert. C'est du vert. C'est la grâce, hein, le vert. Hein. Le vert, c'est la vie divine. La vie divine. Et en fait, c'est à travers du minéral, donc qui se reflète en transparence dans la matière. Et c'est pas des petits trucs d'émeraudes comme ça, gros comme nos émeraudes qu'on porte sur les bagues. Non, c'est des émeraudes sans limite. Vous voyez, c'est la matière, le Père se manifeste dans la matière. Et ça, c'est l'alliance, Saint-Joseph, vous voyez, c'est beau, Joseph glorifié. Hein. Il y a une deuxième sponsalité avec Marie, qui se vit spirituellement. Et Saint-Jean qui est amené à devenir, va devenir petit à petit avec l'Église, le fils de la Sainte Famille glorieuse, pour la mise en place du corps spirituel, vous voyez. Voilà, c'est beau, autour du trône, il y a 24 vieillards. Ah. Autour du trône, donc il y a, et autour du trône, autour, il y a des trônes, il y a 24 trônes. Ah, alors 24, bon, c'est facile, hein, 24 trônes, ça représente 2, toujours, hein, les chiffres, c'est très facile, les chiffres, 2, c'est la deuxième personne de la très sainte Trinité, et 4, c'est l'incarnation. Donc le Verbe, 2, 4, incarné. Donc le trône du Verbe incarné. C'est le trône du Père et qui enveloppe le mystère de l'incarnation. Dans le mystère de l'incarnation, 24 vieillards, dans le mystère de l'incarnation, ou si vous préférez 3 fois 8, 888, 8 plus 8 plus 8, 3 fois 8, 24. Vous savez bien que le chiffre 888, c'est le chiffre clé de la Bible. C'est le chiffre clé. Si vous ne devez connaître qu'un seul chiffre dans la Bible, pour sa signification, c'est le chiffre 888. Souvent, les gens ne connaissent que le chiffre 666. Mais, voyez, mais tu ne connais que ce à quoi tu ressembles, hein, de toute façon. Alors, c'est 888, c'est 2 fois 4, vous voyez, le Verbe incarné dans les trois dimensions de l'homme. 888, c'est le chiffre. Le Ret, la huitième lettre de l'alphabet, c'est le chiffre du Messie. Vous voyez ? Dans le divin, dans le spirituel de la lumière de l'homme, et dans la chair et dans la matière. Il est plénitude de Dieu, de plénitude de la gloire de la création. Dans ces trois dimensions, 888, c'est le Christ glorifié. Et bien le Christ glorifié, et bien porte en lui Autour du trône du Père, il y a les 24 vieillards, le trône du Christ. Et il porte, c'est ce qu'il dit, qui me voit, voit le Père. Le Christ, l'incarnation, porte le Père. C'est beau ça de voir ça. Que je suis apporté. Ça fait comprendre beaucoup de choses, hein. Vous remarquez bien, dans ce qui s'est passé, dans l'embryon, dans Jésus enfant, etc. Quand il portait le Père, jusque dans cette dimension d'émeraude. Hein. Pour l'époux de l'Immaculée Conception, je veux dire, de l'époque, dans la Sainte Famille, ça devait être une chose folle. Hein. Parce que c'est Jésus est transparent, vous comprenez ? La destinée de Joseph, c'est dingue. C'est dingue. Autour du trône, 24 vieillards, et sur les trônes, 24 anciens vieillards assis. Assis. C'est Dieu. Habillés de vêtements blancs, ils sont restés le prêtre. Jésus est prêtre. C'est la résurrection et c'est sacerdoce de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait le passage entre Dieu et les hommes. C'est Dieu qui fait le passage. On n'est pas bouddhiste, c'est pas les hommes qui essaient de se diviniser. Non, c'est Dieu qui fait le passage. C'est Dieu qui divinise. C'est Dieu qui bénit. C'est pas les hommes qui bénissent Dieu. C'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui glorifie, c'est Dieu qui ressuscite, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui fait alliance. C'est pas les hommes qui disent, c'est pas le choix de l'homme. Ah j'ai pas encore choisi de croire, mais imbécile, ça n'a rien à voir. C'est pas ton choix. C'est Dieu qui fait. Vous voyez, c'est ça. Vêtements blancs, ce sacerdoce vient de Dieu. Le sacerdoce, ça vient de Dieu. L'union entre Dieu et l'homme, ça vient de Dieu. Ça vient pas de nous. Oui, c'est beau ça, ça fait des petites choses qui automatiquement, vous voyez, même si on les aperçoit pas quand il y a Apocalypse, même si on les aperçoit pas, vous inquiétez pas, ça passe. Hein. Heureusement qu'on ne le comprend pas dans le cerveau. Parce que... Mais ça passe dans l'âme, hein, ça passe dans le corps. Ça passe dans notre union. De dormir avec les trois éléments, avec les anges. Ça passe, hein. La lecture de la parole de Dieu, c'est une délivrance par rapport à toutes les hérésies. C'est vrai, hein. C'est trop beau, ça. Et sur leur tête, leur contemplation, la royauté, c'est un sacerdoce royal, de charité. C'est la royauté, c'est la sainteté du Saint-Esprit. Qui fait leur contemplation, qui fait la contemplation du Christ. Du trône sortent des éclairs. Et bien du trône, c'est-à-dire du trône de Saint-Joseph, enveloppé du Père glorifié, enveloppé de Jésus glorifié, te rends compte, ça fait 7 couronnes, vous voyez, 24 couronnes, enfin on peut l'arc-en-ciel, tout ça, c'est une alliance, tout ça se mélange, et du coup, hein, l'unité de l'époux et de l'épouse, eh ben, ça donne quoi ? Ça fait l'unité de l'époux et de l'épouse, ceux qui sont mariés le savent bien, l'unité de l'époux et de l'épouse, ça fait des éclairs, des voix et des tonnerres, vous voyez, ça c'est bien connu. Sur des éclairs, des voix et des tonnerres. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit procède de l'unité du Père et du Fils. C'est l'Esprit Saint qui était exprimé sous cette forme. Pourquoi ? Parce que les éclairs, l'Esprit Saint est fulgurant comme l'éclair. Les voix, il exprime une présence totale. Tout est à nu dans l'Esprit Saint, dans sa présence. Et en même temps, des tonnerres parce que c'est très puissant. C'est un temps fulgurant, c'est une présence totale, toute nue, et puis en même temps, c'est de l'unité sponsale. Hein. Et en même temps, c'est très puissant. Voilà ce que Marie contemple. Et ce qu'elle fait, dans son union avec Jean, il voit. Et du coup, il dit, vois, toi aussi, voici, voici. Alors, on voit ça. On voit ça. On vit ça. Mystère de l'incarnation, les 24 vieillards. On voit ce que la foi de Marie et la justice de Joseph leur ont mérité dans la gloire éternelle. Ce n'est que le début, vous comprenez, de l'Apocalypse, ça. Parce que c'était un peu plus loin que Noël, Marie, Jésus, Joseph. Mais ça, c'est très très beau, hein. En face du trône. Mais oui. Alors, oui, des voix, des tonnerres. 7 lampes de feu brûlent en face du trône. Alors, c'est des flammes de. C'est la flamme parfaite, l'incendie absolu. Feu. Qui brûle face à face. Donc, quand on dit face à face, ça veut dire. C'est je vois de l'intérieur la gloire. Hein. Face à face, c'est de l'intérieur, proston, théon, donc du dedans, face. Il n'y a pas de traduction en français pour proston, théon, tu vois. Proston, trenouille. On est dedans et on est face, vous voyez. Je suis dedans et je vois. C'est du dedans que je vois, mais je vois parce que je suis. C'est du dedans que je vois, et je suis dedans et je vois. Vous voyez, quand vous contemplez Dieu, vous faites pas comme ça. Non, non, vous ouvrez les yeux, c'est du dedans que vous voyez Dieu. Et mais vous avez les yeux ouverts, mais vous le voyez. Vous êtes dedans. Vous voyez. Je vois Dieu. Je veux voir Dieu. C'est du dedans, proston, le Saint-Esprit, lui, il est donc dedans le trône. Mais face au trône. À l'intérieur, si vous voulez. Les orthodoxes disent, c'est une péricorèse, la péricorésis. Si vous préférez, en français, on dit la circumcession. Donc vous voyez, c'est quand même facile en français. Ça veut dire que vous êtes circum in sessio. Péri, circum, corésis. Hein? Alors, asis, in, et corésis. Donc, c'est facile. Donc, circum, ça veut dire vous êtes autour, in, vous êtes dedans, et sessio, vous êtes assis. Vous êtes assis.
Dedans.
Dedans, et en même temps, vous êtes autour. Ah. Donc, quelque part, je suis autour, donc c'est tout intérieur, et puis en plus, je suis dedans, mais je suis assis, je vois. Vous voyez, c'est en même temps moi qui suis dedans, mais en même temps, Dieu qui est dedans. Et je vois les deux en même temps. C'est une péricorèse. Par exemple, le c'est facile. Quand vous faites oraison, c'est toujours une péricorèse. Si un jour vous rencontrez un orthodoxe et que vous ne savez pas ce que c'est que la péricorèse, il va se moquer de vous. Hein. Il va dire quoi, vous ne savez pas ce que c'est que la péricorèse? Mais vous avez été baptisé, vous? Non, mais vous avez été baptisé où exactement? Vous n'êtes pas orthodoxe? Ah non, non. Oh, bon. D'accord. Ah, péricorèse. Oui, j'étais éduqué chez les protestants. Ah, d'accord. C'est pire que les néophytes, là. Bon, alors donc, il faut un sacré nettoyage. Donc, la péricorèse, vous vous rappelez, la circumcession. Hein? Bon, eh bien, c'est l'Esprit Saint, il est là dans la section. Dedans, c'est un incendie. Et ce sont les 7 esprits de Dieu, l'Esprit Saint. Oui, c'est le texte le dit lui-même, c'est le Saint-Esprit. Et en face du trône, comme une mer miroitante de miroir, un miroir, une mer qui est comme une espèce de miroir, semblable à du cristal. Vous voyez comme c'est beau ça, ce que Marie vit dans cette double sponsalité à l'intérieur du Saint-Esprit. Quand elle vit cette double sponsalité, c'est l'Esprit Saint qui est là. Alors, elle est l'épouse du Saint-Esprit. Et ça se manifeste sous cette forme. C'est une mer de cristal sans limite, de l'intérieur, sur lequel la gloire du Père, la gloire du Verbe, la gloire du Saint-Esprit peut se refléter dans Jésus et Joseph, et à travers Jésus dans le Verbe, à travers Joseph dans le sein du Père. C'est beau ça, hein? Et comme ça, le Père se glorifie grâce à Marie, épouse du Saint-Esprit. Et l'épouse du Saint-Esprit, c'est quand même autre chose encore. Donc il y a bien une triple responsabilité hein, pour Marie. C'est ce que dit saint Thomas dans la Somme. Marie vit une triple responsabilité au ciel. Saint Thomas d'Aquin. C'était le catéchisme élémentaire hein, du 13e siècle, du 14e siècle. Hein. Tout le monde savait ça. Hein. Tout le monde contemplait ça. Faut pas dire qu'au Moyen-Âge, c'était bête. Hein. Bon, Sodome et Gomorre, c'est normal qu'on soit devenu très très grossier. Alors, en face du trône, une mer, au milieu maintenant du trône, et autour du trône, quatre vivants remplis Dieu par devant et par derrière. Quatre vivants. Ah oui, le vivant, le premier vivant est semblable à un lion. Le second vivant est semblable à un petit taureau. Alors, et puis, le visage d'homme. Et puis, l'aigle en plein vol. Ah, vous voyez bien ça quand vous voyez dans les églises. Vous voyez toujours ces quatre représentations dans toutes les églises pratiquement. Ça représente les quatre. Parce que le verbe s'est incarné. Et il y a cette... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Il s'est incarné pour proclamer l'évangile. Et c'est pour proclamer la gloire de Dieu le Père, pour proclamer la vie, pour donner la vie du Père. C'est pour ça qu'il y a quatre évangiles. Hein, et qu'on représente souvent le premier évangéliste, saint Matthieu, par le petit orion, l'évangile de Saint-Marc par le lion, l'évangile de Saint-Luc par le visage d'homme, et l'évangile de Saint-Jean par le visage de l'aigle qui court en plein vol. Pourquoi ? Parce que le Christ, lorsqu'il manifeste et qu'il donne la vie, lorsqu'il donne le pardon, lorsqu'il ressuscite, lorsqu'il est vivant, eh bien, c'est l'aigle, ça veut dire qu'il est dans la vision béatifique, il est Dieu. C'est le visage d'homme parce qu'il a la plénitude de l'homme. C'est le petit taureau parce que c'est la victime. C'est la victime parfaite. Le taureau, c'est celui qui doit creuser la terre silencieusement et qui doit être égorgé. Et puis enfin, c'est le lion. C'est le règne, c'est le roi de l'univers. Donc la gloire vivante de Jésus est exprimée par les quatre vivants. Donc il n'y a pas seulement l'incarnation, mais il y a aussi la résurrection qui est exprimée ici. Jésus ressuscité, Jésus incarné, les 24 vieillards, mais glorifié, la glorification de l'incarnation, mais aussi la glorification de Jésus. Jésus vivant. Jésus dans la plénitude de Dieu, Jésus dans la plénitude de l'homme, Jésus dans la plénitude victimale, Jésus dans la plénitude de la sainteté. La plénitude de la sainteté, c'est le roi, c'est le lion. C'est les quatre, voyez. C'est les quatre aspects. L'eau, la terre, l'air, le feu. Qui composent le corps glorieux de Jésus. Et c'est vraiment au milieu du trône, voyez. C'est en face du trône. C'est autour du trône. Et voyez, ils sont remplis de Dieu par devant et par derrière. Et c'est aussitôt qu'on voit la mer de cristal, aussitôt il y a le premier reflet. Voyez. C'est la gloire du Père dans l'époux humain de l'Immaculée Conception, Nouvel Adam, qui se manifeste. Ouais, c'est beau ça, normal. Parce que la gloire du Père, c'est Jésus ressuscité. Alors, on continue, et puis on voit ça. Et le vivant, le premier, semblable à l'homme, on l'a vu, et un aigle en plein vol. Les quatre vivants, chacun, ont chacun, un à un, six ailes. Vous voyez, 4 x 6, 24. 4 x 6, 24, 8, hein, il y a bien ça. Seulement les ailes, c'est l'adoration et la contemplation. L'adoration et la contemplation. Jésus est toute adoration. Dans la résurrection, Jésus est toute adoration, il dépend du Père. Jésus dans la résurrection est toute contemplation. Et cette adoration, c'est la nôtre. Il assume toutes nos adorations dans une adoration parfaite, dans une dépendance totale vis-à-vis du Père. 24 fois. 888 fois, voyez. Dans la subsistance du Verbe, 2, et toute la création assumée dedans, dans son adoration et sa contemplation. Et c'est des yeux, voyez, c'est une vision. Et c'est à travers la vision béatifique qu'il y a une adoration. L'adoration chrétienne, c'est à travers la vision béatifique de Jésus. On passe par la vision béatifique de Jésus, qui est... et c'est que des yeux, ses ailes, son adoration, c'est la vision gloire, c'est la vision face à face. Ses ailes sont fabriquées avec des yeux. 24 ailes. C'est beau ça. Vous voyez ? C'est facile à comprendre, hein, une fois que tu as compris. Hein. Et c'est bien, les 24 vieillards et les 4 vivants, c'est pareil, hein, c'est pas la même chose, c'est Jésus. Sauf que l'un, c'est l'incarnation, l'autre, c'est Jésus glorieux, c'est Jésus ressuscité, normal. Voilà. Bon. Et alors, sans repos, ils disent, parce que Jésus, dans la plénitude de ce 888 de son incarnation glorifiée, assume toute la création. Dieu assume tout. Le Verbe assume toute la création et rentre dans la vision béatifique avec ça, voyez, avec toute la création glorifiée, par anticipation, mais dans l'éternité, il n'y a pas besoin d'anticipation, on est dans la présence. Et donc c'est ce que vit Jésus, c'est ce que Saint Jean vit. Et du coup, à partir de ce moment-là, Saint Jean, après, quand il se retrouve avec ses disciples, il va vivre ça, hein. Il va continuer à vivre ça. Nous aussi, après avoir eu l'Apocalypse, l'ayant vu, on va continuer à vivre comme ça notre prière. Vous voyez ? Alors, saint, jour et nuit, sans repos, ils disent, les quatre vivants disent, saint, 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 Yehovah Elohim Shabbat. Hein ? Normalement, quand on assiste à la messe, normalement, tu assistes à la messe, quand on dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Sanctus, Sanctus, et bien ça vient de là. Normalement, c'est Jésus, c'est les quatre vivants, les 24 ailes remplies d'yeux, fabriquées avec des yeux, qui dedans à l'intérieur du trône voient le Père et glorifient le Père. Se glorifie dans sa personne de l'herbe et disparaît dans l'unité des deux pour glorifier l'Esprit Saint. Saint pour le premier, saint pour le second, saint. Yehovah Elohim Shabbat. Et normalement, on doit vivre Sanctus comme ça, hein, normalement. Hein. Saint avec le Père, saint avec le Verbe, saint avec l'Esprit Saint. Mais c'est toute la création qui est aspirée en nous à le dire, hein, dans la vision. Ah, du coup, on apporte, vous voyez, par notre prière sur la terre, on apporte à la vision béatifique de Jésus ressuscité cette amplitude-là. C'est pour ça que Jésus dit, j'ai soif. J'ai soif. Parce qu'on doit lui apporter quelque chose. Même dans la résurrection, on doit lui apporter quelque chose. On doit lui apporter cette liturgie. Il faut que cette liturgie qu'on a sur la terre, de notre mieux, on lui apporte. Et du coup, cette liturgie a cette amplitude-là.